Radio Stab.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Les Chinois, qui possèdent la majorité des magasins en ville, eh bien, ils n'acceptent que les dollars américains. Donc, il faut d'abord acheter des dollars.
Retour au Zimbabwe ce soir, gros plan sur l'économie de ce pays qui doit passer dans une autre ère. L'après Mugabe, vous l'avez compris dans cet extrait, on achète de l'argent d'abord dans ce pays pour essayer de faire commerce. C'est l'escale reportage d'Un jour dans le monde, sous les radars avec des femmes en Arabie Saoudite qui peuvent conduire dans un mois, mais c'est pas la liberté. Pour autant, vous verrez qu'en Russie, ils ont des moustiques gros comme des F-16. 18h50, le feuilleton écolo d'Un jour dans le monde avec Sandy Dauphin et des Maasai, des Maoris, des Kanaks, autant de peuples autochtones venus à Paris pour dire l'importance de leur mode de vie menacé par le climat. 18h55, Le Monde à l'envers et Jean-Marc Fourou, comment la Chine passe des accords économiques fondamentaux pendant que nous, ben, on discute beaucoup. En attendant, tiens, en parlant de discuter, il y a beaucoup de sujets à venir entre nous et Vladimir Poutine. Le président Macron et Vladimir Poutine se voient ce jeudi. On y vient tout de suite. Le Monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Nous précédons donc un peu les pas d'Emmanuel Macron en Russie ce soir. Il y sera jeudi, vendredi, forum économique de Saint-Pétersbourg. Après que Vladimir Poutine d'ailleurs ait vu Angela Merkel, c'était il y a quelques jours, et Theresa May juste un peu avant. Nos relations, ça on ne vous l'apprend pas, ne sont pas toujours simples. Avec les Russes, nous avons déroulé un très gros tapis rouge au Trianon l'an dernier. Depuis, il y a eu beaucoup d'événements et puis aussi peut-être un terrain d'entente autour de l'Iran et d'un accord déchiré par les Américains. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Bonjour Jean de Glignasty.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche L'Iris, vous avez été ambassadeur en Russie de 2009 à 2013. On n'est pas fâché avec les Russes, nous. On a pris ce soin, en fait, de faire attention à nos relations. On a aussi mis les petits plats dans les grands, on y reviendra. Ce qui empêche quand même qu'on a l'impression d'une relation extrêmement inégale, déséquilibrée, on va dire. Toujours aujourd'hui.
Ben, en fait, c'est un dialogue à minima, en fait. On a déployé, certes, le tapis rouge peu de temps après l'élection du président, mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, comme vous l'avez souligné vous-même. Et c'était une reprise de contact pour montrer que tout le monde était ouvert, en fait. Mais même la visite du président au Forum économique de Saint-Pétersbourg, qui avait été convenue au moment de la visite de Poutine à Versailles, au Trianon, a été à un moment discuté.
C'était parce au moment de Skripal, la question. En fait.
Au moment de Skripal, de l'empoisonnement de cet ex-espion russe.
Mais finalement, on y va quand même. C'était aussi montrer quelque chose que de se dire « Non, on ne tourne pas le dos, on y va quand même. »
Oui, je crois que c'est une décision très sage prise par le président. Alors maintenant, on y va pourquoi ? Parce que, alors on y va pour des raisons économiques. J'ai été frappé de voir qu'au Forum de Saint-Pétersbourg, à part les Américains qui sont les hommes d'affaires les plus nombreux à participer au Forum, en second, ce sont les Français, même avant les Chinois et avant tous les autres, même avant les Allemands. Donc il y a des choses à discuter. Et puis il y a aussi des sujets politiques. Et puis il y a des sujets, si je puis dire, politico-économiques, puisque après les sanctions américaines extraterritoriales pour tous ceux qui commercent avec l'Iran, on a peut-être des choses à se dire si on veut préserver l'accord.
Alors allons-y précisément, puisque comme vous l'avez dit, depuis le Trianon, il y a eu Skripal, il y a eu la fameuse ligne rouge et les frappes en Syrie. Donc c'était vraiment des désaccords qui sont extrêmement sérieux, extrêmement graves. Il y a eu le pont de Crimée, c'était il y a quelques jours. Il faut quand même rappeler qu'on a toujours des sanctions économiques contre la Russie à cause de l'annexion de la Crimée. Des points de convergence, est-ce que l'Iran, cet accord déchiré par Trump en est un ? Est-ce que d'une certaine façon, on peut se dire que c'est une sorte de retrouvaille entre nous, oui, l'Europe et la Russie, que ce point de convergence-là ?
Alors,
est-ce qu'on dit ça ?
Je voulais revenir sur la Crimée. L'Union européenne a pris dans un premier temps des sanctions face à l'annexion de la Crimée. Les sanctions économiques les plus dures ont été prises après la crise au Donbass et après la chute d'un avion. Et ces sanctions ont été prises dans un environnement un peu particulier avec une pression américaine très forte. Mais les sanctions spécifiquement européennes sur la Crimée sont des sanctions, j'allais dire, assez délimitées en fait. Alors maintenant,
donc retrouvaille ou pas ? Est-ce qu'il y a une forme de retrouvaille sur ce terrain-là au moins ? En tout cas, celui de l'accord déchiré.
Je crois honnêtement que c'est assez difficile. C'est assez difficile Pour une raison très simple, c'est que la France n'est pas la seule. Mm-hmm. Elle doit tenir compte du point de vue allemand. Elle travaille dans un environnement européen. Et nous sommes dans une période où, en fait, tous les standards normaux des relations internationales ont été plus ou moins détruits. Mm-hmm. Enfin, il y a un peu table rase. Donc l'Europe est en crise. On ne sait pas ce qu'elle va devenir avec le prochain gouvernement italien, qui a décidé lui-même d'ailleurs qu'il pourrait supprimer les sanctions lui tout seul. Et donc on est dans une période où il est très difficile de stipuler pour autrui à partir du moment où on est lié par un certain nombre de mécanismes européens. Donc en fait cette visite est un peu une visite d'attente, en attendant que se décante un certain nombre de dossiers très importants, tant du côté russe que du côté français.
Mais ça veut dire que est-ce que Poutine peut être aligné sur des positions européennes, notamment sur cette histoire d'Iran justement, et sur cette forme d'autonomie, on va dire, que voudraient prendre les pays européens, en tout cas sur le discours vis-à-vis des Américains. Est-ce qu'on peut imaginer que chacun sauve l'autre sur ce terrain ou parle exactement la même langue? Ou est-ce que finalement les Russes vont jouer leur partition pendant que les Européens jouent leur partition?
Bien, à vrai dire, il serait intéressant que ça soit, en concernant l'Iran, l'Europe qui s'aligne sur les Russes. Parce que les Russes qui sont saturés de sanctions ne risquent pas grand-chose en plus à commercer avec l'Iran. Mmh. En revanche, l'Europe, pour l'instant, n'a pas été capable de se mettre d'accord sur un régime permettant d'immuniser leurs entreprises lorsqu'elles commercent avec l'Iran.
Ça veut dire que la Russie, pour l'instant, elle ne perd rien, en fait, avec cet accord déchiré. Pour l'instant, elle, c'est neutre, c'est ni chaud ni froid.
Elle ne perd rien, c'est-à-dire elle va même un peu bénéficier si les Européens ne sont pas capables de se mettre d'accord pour permettre à leurs entreprises de travailler avec l'Iran. Le premier bénéficiaire, c'est la Chine, on l'a vu déjà, quand Total envisage de revendre une partie de son gisement de South Pars 2 à la Chine. Mais je pense que ça gêne moins les Russes, qui sont déjà, comme je disais, ivres de sanctions de tous côtés, que les Européens, qui eux ont des intérêts très forts aux États-Unis et qui ont beaucoup de choses à perdre et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord à 28 pour protéger leurs entreprises.
Et est-ce que c'est un levier? Est-ce que Poutine peut nous dire à nous voilà comment éventuellement moi je peux vous aider, voilà comment les choses peuvent avancer, mais il va falloir faire aussi un pas de votre côté? Est-ce qu'il peut y avoir une forme de chantage comme ça ou pas du tout?
Bah, je vois pas en quoi Poutine peut nous aider. Ce qui nous aiderait, c'est d'avoir une politique ferme au niveau européen. Et je pense que Poutine, pour l'instant, il attend de voir ce que va donner l'Union européenne. Donc, il va jouer sa partition. Et on est d'accord sur le principe. Tout le monde est d'accord, sauf les États-Unis, pour dire qu'il faut appliquer l'accord de juillet 2015 vis-à-vis de l'Iran. La seule question, c'est qui prend le risque et qui prend les mesures nécessaires pour continuer à commercer avec l'Iran, c'est-à-dire à maintenir, à laisser à l'Iran l'incitation majeure que représente la reprise des liens commerciaux avec l'Occident, la Russie, la Chine.
Jean-Luc Lignasti, Emmanuel Macron, c'est la phrase qu'il a employée d'ailleurs. Il dit qu'il faut désormais arrimer la Russie à l'Europe, c'est-à-dire espère que la Russie se tournera plus vers nous qu'elle se tourne pour l'instant vers l'Asie. Est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que le choix de Poutine, de toute façon, il l'est déjà fait et on l'intéresse beaucoup moins que les Asiatiques et les Chinois derrière nous?
Non, je ne crois pas que le choix de Poutine ait été fait. Je crois que il y a deux choses. D'abord, la Chine est un énorme partenaire commercial et de toute façon, il faut évidemment lui donner un peu d'attention économique. Ça, c'est un point et ça existait avant même la crise des relations entre la Russie et l'Europe. Mais toute la structure économique européenne, les mentalités, la culture, le passé, l'histoire, les voyages, tout ça, toute la Russie est tournée vers l'Europe, bien entendu. Et il est de fait que les récents événements l'ont conduit à se tourner peut-être vers la Chine plus qu'elle ne l'aurait souhaité.
Plus qu'elle ne l'aurait souhaité, ça veut dire que c'était à son corps défendant? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a retour en arrière possible? Mais là encore, il y a cette histoire de sanctions quand même. Vous avez souligné qu'elle n'était pas aussi importante que ça, mais il y a cette histoire de sanctions quand même vis-à-vis de l'Ukraine. Est-ce que c'est pas le frein principal?
C'est le frein principal. Donc on peut espérer qu'ils en parleront. Je ne suis pas sûr qu'ils en parlent. Madame Merkel à Sochi, en début de semaine, a surtout parlé de South Stream 2, c'est-à-dire du gaz. Et elle a dit qu'elle n'avait pas parlé des sanctions, je pense qu'ils en ont parlé quand même. Mais c'est sûr qu'il y a au cœur de l'Europe un cancer qui interdit la normalisation des relations entre la Russie et le reste de l'Europe.
Comment ça? Comment vous appelez ça
le
un cancer?
Le cancer, c'est l'Ukraine, c'est la crise ukrainienne. Okay.
C'est comme ça que vous le qualifieriez, vous
Je pense que c'est une paralysie totale pour la diplomatie de l'Europe, de l'Union européenne et de la Russie. C'est une espèce il ne s'agit pas de savoir qui est en tort dans cette affaire, c'est pas le lieu de la discussion. La Crimée est une annexion, mais il est de fait que la situation actuelle est une situation qui paralyse complètement les diplomaties des uns et des autres.
On a l'impression, vous allez m'arrêter si je me trompe, qu'Emmanuel Macron essaye d'avoir avec Poutine un lien qui est finalement assez similaire à celui qu'il a avec Donald Trump, c'est-à-dire à la fois quelque chose de très amical, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, on laisse faire un certain nombre de choses, on entretient l'ego en fait démesuré de la personne qui est en face, mais au final pour quel résultat? Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même approche diplomatique de Trump comme de Poutine finalement?
Je ne le sens pas comme ça. Je ne suis pas évidemment à la tête. Je n'ai jamais assisté à un entretien entre Macron et Poutine. Poutine est un homme qui a une grande expérience de la vie internationale et qui ne se prête pas nécessairement aux familiarités auxquelles se prête Trump. Ouais. Donc déjà sur ce plan, la relation est différente. Et puis d'autre part, nous sommes membres de l'Alliance Atlantique. Le président Sarkozy nous a fait rentrer même dans l'organisation intégrée. Donc nous ne sommes pas d'une certaine façon du même bord. Donc les relations dès le départ sont un petit peu plus difficiles. En plus, l'image de Poutine dans l'opinion publique française est mauvaise. Et donc,
on se souvient des réactions que ça avait données lorsqu'il a été invité au Trianon. Mais effectivement, de la même manière que Trump avait été invité au défilé du 14 juillet,
voilà,
par exemple.
C'est une façon de montrer que le dialogue sur un grand pied est possible et est ouvert. Mais il faut un grand courage politique, beaucoup plus, avoir des relations, chaleureuses, ouvertement chaleureuses. Il faut beaucoup plus de courage avec Poutine qu'avec Trump.
Un sommet réussi, jeudi, vendredi, c'est quoi pour Emmanuel Macron comme pour Vladimir Poutine d'ailleurs, mais un sommet réussi, c'est quoi?
Alors, d'abord, c'est pas vraiment un sommet. Il y aura un entretien bilatéral, mais comme vous savez, il y a 3 invités officiels au Forum de Saint-Pétersbourg. Il y a le président Macron, il y a le Premier ministre Shinzo Abe japonais, qui sera aussi traité sur un grand pied, et il y a Madame Lagarde. Donc, le fait que cette réunion se tienne dans le contexte actuel, c'est déjà quelque chose d'important. Le fait que le président donne en quelque sorte une sorte d'aval politique ou un appui politique au développement des relations économiques, mais le problème est de savoir comment on va les défendre contre les sanctions américaines, puisque les sanctions s'appliquent aussi aux entreprises françaises peuvent s'appliquer aux entreprises françaises qui travaillent avec la Russie. Mais c'est quand même un élément positif. Et enfin, les entretiens politiques, on verra quand ils seront terminés.
Comme vous dites, on verra en bon diplomate, on verra quand ils seront terminés. Jean de Glignasti, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez écrit « La diplomatie au péril des valeurs » et c'est publié chez l'Inventaire. Merci mille fois.
Merci beaucoup.
Saint-Père, Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde au Zimbabwe encore ce soir, avant la fin de l'ère Mugabe. Nous vous ferons plonger dans l'économie de ce pays. Vous allez voir, c'est pas si simple. Sous les radars, en Arabie Saoudite, en Inde et aussi en Russie, avec des moustiques absolument terribles. La minute écolo de Sandy Dauphin. Bonsoir Sandy.
Bonsoir.
Et des peuples autochtones à Paris alors.
Oui, les gardiens de la terre, c'est une alliance qui est venue en France pour chercher des soutiens.
Et vous avez fait une jolie balade en forêt avec l'un d'eux. Vous
nous
rencontrez Jean-Marc Fauré, Le Monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
J'ai envie de dire les chiens aboient et la Chine passe.
C'est un peu ça. Pendant qu'on a le regard concentré sur les querelles Europe-États-Unis, bien quelqu'un en profite et tire les marrons du feu. C'est Pékin.
A tout de suite, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le Royaume-Uni avec Arctic Monkeys. 4 out of 5.
Imaginative way, start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old grey whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's all getting gentrified. I put a tackle
Special effects in my mind's eye. Okay, cookie with the opposite sex. The things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. Cute new places keep on popping up around. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go, and you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened and the days that don't exist at the information action ratio. Stop laughing, is to breathe or steal a kiss. I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up another semitone.
Sur 5, nous disent les Arctic Monkeys sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Florence Paracolos. Florence, dans un mois, les femmes pourront conduire en Arabie Saoudite. Conduire, certes, mais certainement pas militer.
L'Arabie Saoudite en pleine mutation. On en parle régulièrement. Les cinémas, les femmes au stade, l'ouverture au divertissement sous l'impulsion du jeune prince Salman. Formidable. L'Arabie Saoudite, c'est ça. Mais c'est aussi l'arrestation annoncée ce week-end de 6 militantes féministes pour atteinte à la sécurité du royaume. 4 pionnières de la cause, âgées d'une soixantaine d'années et 2 trentenaires. Elles ont toutes déjà connu les prisons, notamment pour avoir conduit avant l'heure. Et aucune n'est dupe de la nouvelle liberté accordée aux femmes. Loujaina Latloul fait partie du lot. Elle l'avait expliqué il y a 2 ans à The Economist.
Pour la freedom of speech.
On nous a promis la liberté d'expression. Le gouvernement nous a garanti qu'il nous protégerait, qu'on aurait le droit de parler librement, sans être condamné ou envoyé en prison. Mais dans la réalité, c'est faux. On est toujours emprisonné pour des opinions très normales, très rationnelles. Et effectivement, la précédente arrestation de Loujaina Latloul remonte au mois de mars, probablement à cause d'un tweet appelant le prince Mohamed Ben Salman à rouvrir le dossier des prisonniers de conscience. Depuis, elle a l'interdiction de voyager et d'utiliser les réseaux sociaux. Elle et ses consœurs d'infortune militent aussi pour la fin de la tutelle des hommes, sans laquelle les femmes ne peuvent pas voyager, pas travailler, pas étudier. Le nerf de la guerre est là. Mais les libéraux vont devoir se calmer. C'est ça le message qu'envoie le prince héritiers en arrêtant ces femmes. La transformation doit venir du haut, explique l'analyste Stéphane Lacroix, interrogé par Le Monde. La société n'a pas son mot à dire. Les initiatives d'en bas ne sont pas les bienvenues.
On reparle du virus Ebola, Florence, qui sévit en RDC. D'ailleurs, en ce moment, il y a un vaccin expérimental qui est testé. Un autre virus, en revanche, presque mortel, là aussi mortel, a fait ses premières victimes en Inde.
Le virus Nipah, pour lequel il n'existe aucun vaccin, sévit dans le sud de l'Inde, au Kerala. Il a fait au moins 10 morts en 15 jours. 100 personnes sont placées en quarantaine. Les autorités appellent à ne pas paniquer, mais difficile de rester calme quand on sait que Nipah est mortel dans 70% des cas. On l'attrape en mangeant des fruits contaminés par une chauve-souris. Ensuite, il peut se transmettre d'homme à homme. Le risque, c'est l'encéphalite ou le coma. Des camps sanitaires et un centre de crise ont été installés dans cet état touristique de l'Inde. Et en plus, sachant qu'on ne connaît pas grand-chose de ce virus Nipah, puisqu'il a été identifié il y a 20 ans seulement.
Et puis, c'est l'enfer dans la région de Voronezh. C'est dans le sud-ouest de la Russie. Florence, un enfer de moustiques. Quelle horreur! C'est épouvantable.
Ça vous gratte, Fabienne?
Oui, non, mais pas, ça va pas me tarder.
Alors, forte pluie plus chaleur inhabituelle égale infestation totale de moustiques. D'énormes moustiques de la taille de gros cousins. Ils pullulent littéralement. Des photos postées sur les réseaux montrent des maisons ou des voitures recouvertes d'insectes. La vie quotidienne est devenue infernale. Cette mère de famille, elle parle à la télé russe en chassant constamment les moustiques autour d'elle avec un rameau. Elle explique que les enfants ne veulent plus aller à l'école, que le terrain de jeu est tout neuf mais qu'il n'y a personne dessus et qu'à 18h, on ne voit même plus la route tellement il y a d'insectes. Il y a aussi cette fermière qui raconte que les moustiques ont tellement piqué ses porcelets que deux en sont morts. Les gens ne sortent plus de chez eux. La presse russe parle des oiseaux d'Hitchcock version moustique. Tout le monde attend désespérément que les températures baissent, mais tout le monde est bien conscient que ces épisodes risquent de se multiplier à cause du changement climatique.
Et bien voilà qui va intéresser Sandy Dauphin, tiens, qui est là autour de nous, qui sera là dans un instant. Florence Paracuelos, merci, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et nous poursuivons ensemble ce soir notre petit voyage à travers le Zimbabwe qui attend fébrilement les premières élections depuis l'ère Mugabe. Vous en avez eu un avant-goût déjà hier, on a beaucoup parlé politique, on va parler économie, ce qui donne une idée, vous allez voir, du chemin qui reste à parcourir. Bonsoir Lisa Fabian.
Bonsoir.
Lisa, ce soir, présenter un pays qui est miné par l'hyperinflation et une série de réformes désastreuses. L'économie du Zimbabwe est totalement sinistrée. Tenez-vous bien, près de 90% de la population est au chômage et le pays est touché par une grave pénurie de liquidités. On écoute votre reportage.
La foule est dense dans les rues du centre-ville d'Harare. Les vendeurs à la sauvette occupent une bonne partie du trottoir. Les taxis se fraient un passage dans la circulation à coups de klaxons. Alignés contre un mur, une dizaine d'hommes et de femmes brassent des billets de banque. Dollars américains, rentes sud-africains ou billets obligataires zimbabwéens. Cela fait plus d'un an que Violette survit en vendant du cash dans les rues d'Harare.
J'ai plein de clients. Ça peut être n'importe qui. Ils amènent leur carte bancaire, ils me font un transfert. Je prends un pourcentage et je leur donne du cash. Il n'y a pas de liquide à la banque. C'est devenu normal pour les gens de tout payer avec de l'argent en plastique. Mais ça reste difficile parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec nos cartes bancaires ou nos paiements mobiles. Par exemple, les Chinois, qui possèdent la majorité des magasins en ville, eh bien, ils n'acceptent que les dollars américains. Donc, pour aller dans leur magasin, il faut d'abord acheter des dollars. Oui, je survis en vendant du cash, mais c'est difficile. Ce n'est pas une situation normale.
Les retraits en liquide sont désormais limités à quelques dizaines de dollars par semaine au Zimbabwe et les banques ne distribuent plus de billets mais seulement des pièces. Le paiement dématérialisé est devenu la norme dans le pays avec des frais de transfert particulièrement élevés. Pour trouver du liquide, mieux vaut se tourner vers le secteur informel qui permet à 90% de la population zimbabwéenne de survivre au quotidien. C'est le cas d'Eric.
Nous obtenons du liquide en nous débrouillant, on achète des téléphones, on les revend, on va sur le marché, on achète des pommes de terre, des tomates, on les revend, on récupère du cash. Si je vais travailler pendant un mois et qu'à la fin du mois, je gagne $300 par exemple, c'est sur mon compte. Et maintenant, si je veux utiliser cet argent, ils vont me faire payer des frais pour chaque transaction réalisée par paiement mobile par exemple. Donc à la fin, je ne vais pouvoir vraiment utiliser que $200. Les autres 100 ont juste disparu.
Le gouvernement zimbabwéen émet depuis 2016 des billets obligataires pour les échanges dans le pays. Mais ces billets, inutilisables en dehors du territoire, tendent aussi à disparaître. John Robertson, analyste économique.
Il y a un célèbre théorème économique, la loi de Gresham, qui affirme que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Quand le gouvernement a introduit cette nouvelle monnaie, les dollars américains, qui étaient encore en circulation, ont disparu. Aujourd'hui, les banques font de l'argent en taxant les transferts mobiles ou les paiements par carte. Les banques disent qu'elles sont obligées de le faire, car il y a trop peu d'emprunteurs qui peuvent payer des intérêts sur leurs prêts. Et les conditions sont toujours très compliquées pour faire des affaires au Zimbabwe.
Les caisses du pays sont à sec, faute d'investissements étrangers, de croissance économique ou de commerce extérieur. Mais depuis le mois de novembre, des compagnies occidentales recommencent à s'intéresser au Zimbabwe, séduites par les promesses d'ouverture économique du nouveau gouvernement.
Le principal changement, c'est que les compagnies qui veulent investir au Zimbabwe ne sont plus obligées de se soumettre à la loi sur l'indigénisation. Sous Mugabe, les entreprises devaient céder 51% de leur capital à des investisseurs nationaux. Beaucoup ne voulaient pas faire ça. La règle sur l'indigénisation est toujours valable pour les mines de diamants et de platine, mais pas pour les activités manufacturières. Donc, on espère que des usines pourront revenir s'implanter au Zimbabwe.
A lot more manufacturers investigating the possibilities of actually coming here.
Les investissements occidentaux sont encore suspendus à la tenue d'élections transparentes. Le président Emmerson Mnangagwa promet un scrutin libre et juste et la venue d'observateurs internationaux. Brian Mataruka est avocat spécialiste en droit des entreprises.
Le Zimbabwe doit avoir des élections libres et justes. C'est la condition pour que les dirigeants qui seront élus puissent faire avancer le pays. Le Zimbabwe a été isolé pendant plus de 15 ans et le processus pour réinvestir le pays n'aura pas lieu en une nuit. Mais aujourd'hui, notre économie a besoin d'investissements directs étrangers dans nos entreprises, dans nos imports. La relance des exportations pour les secteurs de l'économie qui sont performants, dont notre économie a vraiment besoin.
Economy that do perform.
Aucune date n'a pour l'instant été annoncée pour la tenue de ces élections qui doivent marquer le grand retour du Zimbabwe sur la scène internationale, tant au niveau politique que commercial.
Précisément, d'ailleurs, tiens, j'en profite pour ajouter que le Zimbabwe a demandé aujourd'hui même à entrer dans le Commonwealth, à réentrer d'ailleurs, parce que Mugabe avait claqué la porte, c'était en 2003, la bonne tenue des élections, évidemment, ce sera un argument, c'est à suivre sur France Inter et dans Un jour dans le monde, Lisa Fabian. Merci mille fois. Voici Jamiroquai sur France Inter. When you gonna learn?
Consequences are so grave, so, so grave. Now, the hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop the end, on each other we depend. All we depend. Man in high in liberty, stop it going on. We gotta wake this world.
is on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, cause there's no fish left in the sea. Greedy man, Ben Kellen of the laughter reservoirs. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my bad, her bad, right from wrong. Oh, you've upset the balance, man, done the only thing you can. Now my life is in your hands.
Gonna learn, nous dit Jamiroquai sur France Inter.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Sintès.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Et Sandy Dauphin, chargé de reverdir et refroidir la planète comme tous les mardis. Sandy, des représentants des peuples autochtones sont à Paris en ce moment pour porter un message. Il y a des Maasai du Kenya, il y a des Maoris de Nouvelle-Zélande, il y a des Achaninka du Pérou, si j'ai bien prononcé.
Bravo.
Merci. Il y a des Kanaks de Nouvelle-Calédonie, ça c'est plus facile. Pendant la COP21, Sandy, on se souvient, parce que vous nous en avez déjà beaucoup parlé, ils ont créé l'Alliance des gardiens Mère Nature pour que leur voix soit prise en compte dans le combat contre le réchauffement climatique. Leur mode de vie est menacé, c'est ce qu'ils nous expliquent. Et ce week-end, vous vous êtes baladé en forêt, en région parisienne, avec un de ces gardiens Mère Nature. C'est très classe quand même.
Ouais, bah, disons plutôt qu'on a fait quelques pas dans le bois de Boulogne. Avec
c'est moins classe, mais c'est pas grave.
Apollinaire Oussou-Lio, il représente la communauté Tolinou dans le sud Bénin. Et il a un message pour vous, Fabienne.
Je suis venu pour dire à tout le peuple du monde, que vous soyez indigène ou pas, une minorité n'a pas le droit d'exploiter la planète pour rendre malheureux la majorité, dont nous devons rester ensemble pour une gestion intelligente et une gestion durable de notre planète Terre.
Voilà. Apollinaire Oussou-Lio habite une petite commune à Vrenkou, située à une quinzaine de kilomètres au sud de la capitale Porto Novo. La principale menace environnementale là-bas, dit-il, à part les sachets plastiques partout, c'est la déforestation. Elle entraîne des inondations, une perte de biodiversité et puis aussi des chamboulements socio-économiques.
Quand moi j'étais tout petit, les singes venaient juste dans nos maisons, mais aujourd'hui on ne les voit plus. Au départ, c'est des grandes forêts humides. Mais aujourd'hui, c'est vide, pratiquement vide de bois parce qu'on a surexploité, on a coupé les bois. Ça veut dire que les fruits sauvages que nous avons, les légumes que nous avons gratuitement, aujourd'hui, on est obligé d'aller dans d'autres communes pour les acheter.
Voilà, l'ONG d'Apollinaire Oussou-Lio travaille au reboisement des forêts, à l'éducation environnementale et puis aussi à la réintroduction d'espèces locales comme le Python royal, Fabienne, qui a fait,
appelez-moi monsieur,
de dire Python royal, ça me fait déjà des frissons, qui a fait l'objet d'un culte pendant des siècles.
Dans les années 80, on a pensé que dans ces pitons se trouvait la sorcellerie. Il y a des gens qui ont commencé systématiquement à tuer cet animal inoffensif. Ces pitons régulaient la population de rats. Donc ces pitons, quand on les a tués, la population de rats dans les champs de maïs a augmenté. Finalement, on les trouve rarement chez moi. Et c'est bien dommage, il faut aller dans une autre commune appelée Ouida, où vous pouvez trouver les pitons qui traversent les voies. Les gens n'ont pas le droit de tuer, on les prend, on les embrasse, on les dépose. On a réintroduit dans les forêts sacrées ces pitons pour permettre à la génération à venir de voir ce que nous avons vu.
Voilà, on les prend, on les embrasse. J'ai toujours rêvé d'avoir un piton domestique.
Mais c'est vraiment inoffensif.
Qu'on appellerait Léon le piton. Bref, sinon, l'Alliance des gardiens de Mère Nature vient chercher des soutiens en France. Là, pour le coup, c'est très sérieux.
Oui, vous le disiez, donc, cette alliance a été lancée lors de la COP 21 en 2015 à Paris. Eh bien, aujourd'hui, le paradoxe, c'est que certains peuples autochtones sont également victimes de projets de développement qui se veulent verts. Exemple au Brésil, un programme soutenu par l'ancien président Lula. Geert Peter Broesch est le fondateur de l'ONG Planète Amazon, il nous explique.
Lula, par exemple, a vraiment poussé le développement des carburants verts, bio. Et on voit l'impact qu'ils ont dans mon film, notamment la destruction du peuple Guarani Kaiowa. Et là, on parle de génocide quand même.
Parce que, pour expliquer aux gens, carburant vert, on déforeste pour mettre des champs. Hein.
Bah, par exemple, là, sur leur territoire, c'est la canne à sucre. Donc oui, ils déforestent, ils polluent les rivières, ils déforestent, ils utilisent des engrais chimiques, donc ils bousillent complètement les sols. Et donc ces gens n'ont plus de terre, vivent au bord des autoroutes, sous des bâches, et avec des rations alimentaires généreusement données par le gouvernement.
Ce combat des peuples autochtones d'Amazonie pour conserver le poumon vert de la planète, le directeur de l'ONG Planète Amazon le raconte dans un nouveau documentaire intitulé Terra Libre. Il est projeté ce soir à Paris au cinéma Les Fauvettes. La France organisera un sommet des peuples premiers fin 2018, début 2019. C'est une promesse de Nicolas Hulot.
Et nous, on sera là, surtout vous d'ailleurs, Sandy Dauphin, dans Un jour dans le monde. Merci.
Le 18-20, Fabienne Saintès. Sur France Inter.
Jean-Marc Fourré, le monde à l'envers. Jean-Marc, pendant que les Européens se disputent entre eux, se querellent avec les États-Unis sur l'Iran, sur les taxes commerciales, vous nous dites dans votre monde à l'envers que l'essentiel du coup est en train de se passer ailleurs et de passer peut-être inaperçu dans tous ces dossiers discrètement. C'est la Chine qui est en train de tirer les marrons du feu.
Tiens, je vais vous passer une photo ici en studio, Fabienne, allez-y. Grâce à Sandy, voilà, qui va vous la passer. Vous allez la regarder, puis vous la trouverez, vous qui nous écoutez, sur franceinter.fr. Cette photo, elle fait un tabac sur les réseaux sociaux en Chine. Alors, à première vue, vous êtes d'accord avec moi, c'est une image banale, une sorte de négociation, en l'occurrence, des discussions commerciales de vendredi et samedi dernier à Washington, entre Chinois et Américains. Hein, c'est très classique, hein, encore une fois. Il y a une grande table tout en longueur, une délégation de chaque côté, tout le monde a ses dossiers et sa bouteille d'eau devant lui sur la table. Et puis maintenant, quand on regarde plus attentivement, qu'est-ce qui vous saute aux yeux, Fabienne? Allez-y, dites-nous.
Du côté droit, ce sont des gens extrêmement vieux, des cheveux blancs, des crânes chauves. Du côté gauche, il y a aussi des femmes et ce sont des gens beaucoup plus jeunes.
Voilà, donc à gauche, les Chinois, moyenne d'âge à vue de nez 40 ans. À droite, les Américains, moyenne d'âge à vue de nez 70 ans. Mmh. Et du coup, sur Weibo, le principal réseau social chinois, cette photo est devenue un symbole en un clin d'œil en quelques heures. La Chine, c'est l'avenir et la modernité et elle est en train de supplanter les Américains, ringards et dépassés. Et le symbole vaut d'autant plus que les Chinois ont gagné ce round de négociations. Washington a renoncé à imposer 50 milliards de droits de douane supplémentaires aux produits chinois et en échange, Pékin s'est engagé à pas grand-chose en fait. Mmh. Une vague promesse d'augmenter ses importations de produits américains, on pense en particulier au soja, mais aucun chiffrage précis, zéro. La balance commerciale entre les deux pays va donc rester très favorable aux Chinois. 4 fois plus d'exportations que d'importations. Autrement dit, Donald Trump fait des effets de manche, comme toujours, mais il bat en retraite. Pourquoi ? 2 explications. D'une part, les premières menaces de rétorsion chinoise sur le vin ou les pistaches, par exemple, ont fait leur effet. D'autre part, autant la délégation chinoise parle d'une seule voix, autant la délégation américaine est divisée. Il y a les protectionnistes, il y a les libre-échangistes, et tout cela fait de la cacophonie.
Alors en même temps, quand les États-Unis menacent de sanctionner, par exemple, les entreprises qui font commerce avec l'Iran, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, ça concerne aussi les Chinois, non ? Pas du tout.
En théorie, oui. Et en pratique, non. Je m'explique. À l'exception de quelques-unes de leurs entreprises, en particulier dans les télécoms, on pense à ZTE ou à Huawei, les Chinois ne redoutent pas les représailles américaines. C'est toute la différence avec les Européens. Alors l'Iran est en effet un bon exemple. Aujourd'hui, Total, par peur des sanctions venues de Washington, semble décider à renoncer au grand contrat gazier pourtant déjà signé en Iran. Qui va prendre sa relève? Je vous le donne en 1000, source officielle iranienne, et vous le lisiez tout à l'heure avec votre invité. Le chinois CNPC. Aujourd'hui déjà, 25% du pétrole iranien part en Chine. Chine. Et Pékin est engagé dans plusieurs projets en Iran, notamment la construction de la ligne ferroviaire Téhéran-Machad, c'est au nord-est du pays. En fait, les Chinois ne s'embarrassent pas du dollar. Soit ils facturent directement en yuan, soit ils passent par des intermédiaires et ils échappent ainsi à toute sanction américaine. D'ailleurs, après l'annonce par Donald Trump il y a 2 semaines de son retrait de l'accord sur le nucléaire, où s'est rendu le premier ministre iranien des Affaires étrangères ? À Pékin, c'est QFD. Et ce qui vaut pour l'Iran, vaut pour une grande partie de l'Afrique noire, voire de l'Europe de l'Est, où les Chinois multiplient les partenariats dans le cadre de leur grand projet commercial surnommé Nouvelle Route de la Soie.
Et tout le monde laisse faire.
Oui, c'est en partie de l'aveuglement. Au lieu de se focaliser sur les droits de douane, on serait mieux inspiré de contrecarrer l'hégémonie chinoise sur d'autres terrains. Par exemple, par la défense de la propriété intellectuelle, puisque Pékin est assez expert dans l'exigence de transfert de technologie sur tout contrat commercial. Ou bien par le recours aux arbitrages internationaux pour abus de position dominante et atteinte à la concurrence. Rappelons que la Chine fait désormais partie de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Mais plus que de l'aveuglement, c'est de l'impuissance. Tous les consommateurs de la planète ont besoin des produits chinois. Pékin a rééquilibré sa balance commerciale globale et Pékin a la sagesse de commencer à essayer de maîtriser son endettement. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Chine a les moyens de ses ambitions. Et Pékin donne du coup aujourd'hui l'impression d'être devenu le seul acteur international à posséder une vision à long terme, ou, fait important, la décision politique est en adéquation avec la stratégie économique. Et là, il y a une sacrée différence avec l'Europe.
Et vous voyez, Jean-Marc, à l'instant, Trump n'est pas satisfait des négociations commerciales avec la Chine. C'est ce que nous annonce une dépêche AFP. J'ai envie de dire, tu m'étonnes.
Exactement, nouvel effet de manche.
Merci beaucoup, Jean-Marc. Un jour dans le monde, comme tous les jours. Merci. À demain, dans un instant, c'est le journal de Sébastien Paour. Et puis, le téléphone sonne. Merci de nous écouter. Bonne soirée sur Inter.